Germaine de Staël, Delphine. Lettres 27 à 30 comprises. Léonce à Monsieur Barton. Paris, ce 29 juin. Mon sort est décidé, mon cher maître. Jamais un autre objet que Delphine n'aura d'empire sur mon cœur. Hier, au bal, hier, elle s'est presque compromise pour moi. Ah, que je la remercie de m'avoir donné des devoirs envers elle. Je n'ai plus de doute, plus d'incertitude. Il ne s'agit plus que d'exécuter ma résolution, et je ne vous consulte que sur les moyens d'y parvenir. Je serai le 4 juillet à Mondeville. Nous concerterons ensemble ce qu'il faut écrire à ma mère. Madame de Vernon ne m'a pas encore dit un mot du mariage projeté. À mon retour de Mondeville, je lui parlerai le premier. C'est une femme d'esprit, elle est l'amie de Delphine. Dès qu'elle sera bien assurée de ma résolution, elle la servira. Je ne craignais que la force des engagements contactés. Ma mère a évité de me répondre sur ce sujet. Il faut qu'elle n'y croie pas son honneur intéressé. Elle n'aurait pas tardé d'un jour à me donner un ordre impérieux si elle avait cru sa délicatesse compromise par ma désobéissance. Elle n'insiste dans ses lettres que sur les prétendus défauts de Madame d'Albémare. On lui a persuadé qu'elle était légère, imprudente, qu'elle compromettait sans cesse sa réputation, et ne manquait pas une occasion d'exprimer les opinions les plus contraires à celles qu'on doit chérir et respecter. C'est à vous, mon cher Barton, de faire connaître Madame d'Albémare à ma mère. Elle vous croira plus que moi. Sans doute Delphine se fie trop à ses qualités naturelles et ne s'occupe pas assez de l'impression que sa conduite peut produire sur les autres. Elle a besoin de diriger son esprit vers la connaissance du monde et de se garantir de son indifférence pour que cette opinion publique sur laquelle les hommes médiocres ont au moins autant d'influence que les hommes supérieurs. Il est possible que nous ayons des défauts entièrement opposés. Eh bien, à présent, je crois que notre bonheur et nos vertus s'accroîtront par cette différence même. Elle soumettra, j'en suis sûre, ses actions à mes désirs, et sa manière de penser affranchira peut-être la mienne. Elle calmera du moins cette ardente susceptibilité qui m'a déjà fait beaucoup souffrir. Mon ami, tout est bien si je suis son époux. Hier, enfin, mais comment vous raconter ce jour? C'est replonger une âme dans le trouble qui l'égare. Quel sentiment que l'amour! Quelle autre vie dans la vie! Il y a dans mon cœur des souvenirs, des pensées si vives de bonheur que je jouis d'exister chaque fois que je respire. Ah, que mon ennemi m'aurait fait de mal en me tuant. Ma blessure m'inquiète à présent. Il m'arrive de craindre qu'elle ne se rouvre. Des mouvements si passionnés m'agitent que j'éprouve, le croiriez-vous, la peur de mourir avant demain, avant une heure, avant l'instant où je dois la revoir. Ne pensez pas, cependant, que je vous exprime l'amour d'un jeune homme, l'amour qu'un sage ami devrait blâmer. Quoique vous vous soyez imposé de ne point contrarier les vues de ma mère, vous désirez qu'elle préfère Madame d'Albémare à Mathilde. Oui, mon cher maître, votre raison est d'accord avec le choix de votre élève. Ne vous en défendez pas. Ah, si vous saviez combien vous m'en êtes plus cher. J'avais reçu, avant d'aller au bal de Madame de Vernon, une réponse de vous sur Monsieur de Serbellane. Vous conveniez que c'était l'homme que Madame d'Albémare vous avait toujours paru distinguer le plus, et, quoique vous cherchassiez à calmer mon inquiétude, votre lettre l'avait ranimée. J'arrivai donc au bal de Madame de Vernon avec une disposition assez triste. Mathilde s'était parée d'un habit à l'espagnole qui relevait singulièrement la beauté de sa taille et de sa figure. Elle ne m'a jamais témoigné de préférence, mais je crus voir une intention aimable pour moi dans le choix de cet habit. Je voulus lui parler, et je m'assis près d'elle, après l'avoir engagée à se rapprocher de la porte d'entrée vers laquelle je retournais sans cesse la tête. J'étais si vivement émue par l'impatience de voir arriver Delphine que je ne pouvais même pas suivre avec Mathilde cette conversation de bal si facile à conduire. Tout à coup, je sentis un air embaumé. Je reconnus le parfum des fleurs que Delphine a coutume de porter, et je tressaillis. Elle entra sans me voir. Je n'allai pas à l'instant vers elle. Je goûtai d'abord le plaisir de la savoir dans le même lieu que moi. Je ménageai avec volupté les délices de la plus heureuse journée de ma vie. Je laissai Delphine faire le tour du bal avant de m'approcher d'elle. Je remarquai seulement qu'elle cherchait quelqu'un encore, quoique tout le monde se fût empressé de l'entourer. Elle était vêtue d'une simple robe blanche, et ses beaux cheveux étaient rattachés ensemble, sans aucun ornement, mais avec une grâce et une variété tout à fait inimitables. Ah, quand la regardant, j'étais ingrat pour la parure de Mathilde. C'était celle de Delphine qu'il fallait choisir. Que me font les souvenirs de l'Espagne? Je ne me rappelle rien que depuis le jour où j'ai vu Madame d'Albémar. Elle me reconnut dans l'embrasure d'une fenêtre où j'avais été me placer pour la regarder. Elle eut un mouvement de joie que je ne perdis point. Bientôt après, elle aperçut Mathilde et son costume la frappa tellement qu'elle resta debout devant elle, rêveuse, distraite et sans lui parler. Une jeune et jolie Italienne qu'on nomme Madame d'Hervin aborda Delphine et la pria de la suivre dans le salon à côté. Delphine hésitait, et j'en suis sûre, pour me parler. Cependant, Madame d'Hervin eut l'air affligé de sa résistance et Delphine n'hésita plus. Cet entretien avec Madame d'Hervin fut assez long, et je le souffrais impatiemment lorsque Delphine revint à moi et me dit « Il est peut-être bien ridicule de vous rendre compte de mes actions sans savoir si vous vous y intéressez. Enfin, dussiez-vous trouver cette démarche imprudente, vous penserez de mon caractère ce que vous en pensez peut-être déjà. Mais vous ne concevrez pas du moins sur moi des soupçons injustes. Un intérêt qu'il m'est interdit de vous confier me force à causer quelques instants seul avec M. de Serbellane. Cet intérêt est le plus étranger du monde à mes affections personnelles. Je connaîtrais bien mal Léonce s'il pouvait se méprendre à l'accent de la vérité, et si je n'étais pas sûre de le convaincre quand j'atteste son estime pour moi de la sincérité de mes paroles. La dignité et la simplicité de ce discours me firent une impression profonde. Ah, Delphine, quelle serait votre perfidie si vous faisiez servir au mensonge tant de charme qui ne semble créer que pour rendre plus aimables encore les premiers mouvements, les affections involontaires, pour réunir enfin dans une même femme les grâces élégantes du monde à toute la simplicité des sentiments naturels. Quand la conversation de Madame d'Albémar avec M. de Serbellane fut terminée, elle revint dans le bal. Et M. d'Orsan, ce neveu de Madame du Marsay, qui a toujours besoin d'occuper de ses talents parce qu'ils lui tiennent le lieu d'esprit, pria Delphine de danser une polonaise qu'un russe leur avait apprise à tous les deux et dont on était très curieux dans le bal. Delphine fut comme forcée de céder à son importunité, mais il y avait quelque chose de bien aimable dans les regards qu'elle m'adressa. Elle se plaignait à moi de l'ennui que lui causait M. d'Orsan. Notre intelligence s'était établie d'elle-même. Son sourire m'associait à ses observations doucement malicieuses. Les hommes et les femmes montèrent sur les bancs pour voir danser Delphine. Je sentis mon cœur battre avec une grande violence quand tous les yeux se tournèrent sur elle. Je souffrais de l'accord même de toutes ses pensées avec la mienne. J'eusse été plus heureux si je l'avais regardée seule. Jamais la grâce et la beauté n'ont produit sur une assemblée nombreuse un effet plus extraordinaire. Cette danse étrangère a un charme dont rien de ce que nous avons vu ne peut donner l'idée. C'est un mélange d'indolence et de vivacité, de mélancolie et de gaieté tout à fait asiatique. Quelquefois, quand l'air devenait plus doux, Delphine marchait quelques pas la tête penchée et les bras croisés, comme si quelque souvenir, quelque regret, était venu se mêler soudain à tout l'éclat d'une fête. Mais bientôt, reprenant la danse vive et légère, elle s'entourait d'un châle indien qui, dessinant sa taille et retombant avec ses longs cheveux, faisait de toute sa personne un tableau ravissant. Cette danse expressive, et pour ainsi dire inspirée, exerce sur l'imagination un grand pouvoir. Elle vous retrace les idées et les sensations poétiques que, sous le ciel de l'Orient, les plus beaux vers peuvent à peine décrire. Quand Delphine eut cessé de danser, de si vifs applaudissements se firent entendre qu'on put croire pour un moment tous les hommes amoureux et toutes les femmes subjuguées. Quoique je sois encore faible et qu'on m'ait défendu tout exercice qui pourrait enflammer le sang, je ne sus pas résister au désir de danser une anglaise avec Delphine. Il s'en formait une de toute la longueur de la galerie. Je demandai à Madame d'Albémar de la descendre avec moi. « Le pouvez-vous, me répondit-elle, sans risquer de vous faire mal ?»« Ne craignez rien pour moi, répondis-je, je tiendrai votre main. » La danse commença, et plusieurs fois, mes bras serrèrent cette taille souple et légère qui enchantait mes regards. Une fois, en tournant avec Delphine, je sentis son cœur battre sous ma main. Ce cœur que toutes les puissances divines ont doué, s'animait-il pour moi d'une émotion plus tendre? J'étais si heureux, si transporté, que je voulus recommencer encore une fois la même contredanse. La musique était ravissante. Deux harpes mélodieuses accompagnaient les instruments avant et jouaient un air à la fois vif et sensible. La danse de Delphine prenait par degrés un caractère plus animé. Ses regards s'attachaient sur moi avec plus d'expression. Quand les figures de la danse nous ramenaient l'un vers l'autre, il me semblait que ses bras s'ouvraient presque involontairement pour me rappeler, et que, malgré sa légèreté parfaite, elle se plaisait souvent à s'appuyer sur moi. Les délices dont je m'enivrais me firent oublier que ma blessure n'était pas parfaitement guérie. Comme nous étions arrivés au dernier couple qui terminait le rang, j'éprouvais tout à coup un sentiment de faiblesse qui faisait fléchir mes genoux. J'attirais Delphine par un dernier effort, encore plus près de moi, et je lui dis à voix basse, « Delphine, Delphine, si je mourais ainsi, me trouveriez-vous à plaindre ?»« Mon Dieu, interrompit-elle d'une voix émue, mon Dieu, qu'avez-vous ? » L'altération de mon visage la frappa. Nous étions arrivés à la fin de la danse. Je m'appuyai contre la cheminée et je portais, sans y penser, la main sur ma blessure qui me faisait beaucoup souffrir. Delphine ne fut plus maîtresse de son trouble et s'y livra tellement qu'à travers ma faiblesse, je vis que tous les regards se fixaient sur elle. La crainte de la compromettre me redonna des forces, et je voulus passer dans la chambre voisine de celle où l'on dansait. Il y avait quelques pas à faire. Delphine, n'observant rien que l'état où j'étais, traversa toute la salle sans saluer personne, me suivit, et me voyant chanceler en marchant, s'approcha de moi pour me soutenir. J'eus beau lui répéter que j'allais mieux, qu'en respirant l'air je serais guérie, elle ne songeait qu'à mon danger, et laissa voir à tout le monde l'excès de sa peine et la vivacité de son intérêt. Oh Delphine, dans ce moment, comme au pied de l'autel, j'ai juré d'être ton époux. J'ai reçu ta foi, j'ai reçu le dépôt de ton innocente destinée lorsqu'un nuage s'est élevé sur ta réputation à cause de moi. Quand je fus près d'une fenêtre, je me remis entièrement. Alors, Delphine, se rappelant ce qui venait de se passer, me dit, les larmes aux yeux, « Je viens d'avoir la conduite du monde la plus extraordinaire. Votre imprudence, en persistant à danser, a mis mon cœur à cette cruelle épreuve. Léonce, Léonce, aviez-vous besoin de me faire souffrir pour me deviner ? Pourriez-vous me soupçonner, lui dis-je, d'exposer volontairement au regard des autres ce que j'ose à peine recueillir avec respect, avec amour dans mon cœur ? Mais si vous redoutez le blâme de la société, je saurai bientôt. Le blâme de la société, interrompit-elle, avec une expression d'insouciance singulièrement piquante, je ne le crains pas, mais mon secret sera connu avant que je l'aie confié à l'amitié, et vous ne savez pas combien cette conduite me rend coupable. » Elle allait continuer lorsque nous entendîmes du bruit dans le salon et le nom de Madame Dervin plusieurs fois répété. Delphine me quitta précipitamment pour demander la cause de l'agitation de la société. Madame Dervin, lui répondit M. de Fierville, vient de tomber sans connaissance, et on l'emporte dans sa voiture par l'ordre de M. Dervin. Il ne veut pas qu'elle reçoive des secours ailleurs que chez elle. À peine Delphine eut-elle entendu ces dernières paroles qu'elle s'élança sur l'escalier, atteignit M. Dervin, monta dans sa voiture sans rien lui dire et partit à l'instant même. C'est tout ce que je pus apercevoir. Le mouvement rapide d'une bonté passionnée l'entraînait. Elle me laissa seule au milieu de cette fête que je ne reconnaissais plus. Je cherchais en vain les plaisirs qui se confondaient dans mon âme avec l'amour. Mais j'étais pénétrée de cette émotion tendre et néanmoins sérieuse qui remplit le cœur d'un honnête homme lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il s'est chargé du bonheur de celle d'un autre. Je ne sais si j'abuse de votre amitié en vous confiant les sentiments que j'éprouve, mais pourquoi la gravité de votre âge et de votre caractère me défendrait-elle de vous peindre ce pur amour qui me guide dans le choix de la compagne de ma vie? Mon cher maître, ils vous seront doux les récits du bonheur de votre élève. S'ils vous rappellent votre jeunesse, ce sera sans amertume, car tous vos souvenirs tiennent à la même pensée. Ils se rattachent tous à la vertu. J'attendrai pour m'expliquer entièrement avec Madame d'Albémare que j'ai reçu la réponse de ma mère. Dans quelques jours, je serai près de vous à Mondeville, puisque vous y avez besoin de moi. Je veux que nous écrivions ensemble à ma mère de ce lieu même où elle a passé les premières années de son mariage et de mon enfance. Ses souvenirs la disposeront à m'être favorable. Lettre 38. Madame de Vernon à Monsieur de Clarimin. Paris, ce 30 juin 1790. On vous a mandé que M. de Mondeville était très occupé de Madame d'Albémare et qu'il paraissait la préférer à ma fille. Vous en avez conclu que le mariage que j'ai projeté n'aurait pas lieu. Vous devriez avoir, cependant, un peu plus de confiance dans l'esprit que vous me connaissez. Je suis témoin de tout ce qui se passe. Léonce et Delphine n'ont pas un seul mouvement que je n'aperçoive. Et vous imaginez que je ne saurais prévenir à temps cette liaison qui renverserait tous mes projets de bonheur et de fortune. J'ai fait quelquefois usage de mon adresse pour de très légers intérêts. Aujourd'hui, c'est mon devoir de protéger ma fille, et je n'y réussirai pas. Vous me dites que Madame d'Albémare me cache son affection pour Léonce. Mon Dieu, je vous assure que j'aurai sa confiance quand je le voudrai. Je ne suis occupée qu'à une chose, c'est à l'éviter, car elle m'engagerait et il me plaît de rester libre. Les caractères de Léonce et de Delphine ne se conviennent point. Léonce est orgueilleux comme un Espagnol, épris de la considération presque autant que de Delphine, aimable, très aimable. Mais il faut les séparer pour leur intérêt à tous les deux. L'occasion s'en présentera. Il ne faut que du temps. Je défie bien Léonce et Delphine de presser les événements que j'ai résolu de ralentir. Personne ne sait mieux que moi faire usage de l'indolence. Elle me sert à déjouer naturellement l'activité des autres. Je veux le mariage de Léonce et de Mathilde. Je ne me suis pas donné la peine de vouloir 4 fois en ma vie. Mais quand j'ai tant fait que prendre cette fatigue, rien ne me détourne de mon but et je l'atteins. Comptez-y. Je vous remercie de l'intérêt que vous me témoignez, mais quand il y va du sort de ma fille, de ma ruine ou de mon aisance, de tout enfin pour moi, pensez-vous que je puisse rien négliger? Je me garde bien, cependant, d'agir dans un grand intérêt, avec plus de vivacité que dans un petit. Car ce qui arrange tout, c'est la patience et le secret. Adieu donc, mon cher Clarimain. Comme j'espère vous voir à Paris dans peu de temps, je vous y invite pour les noces de ma fille. Lettre 29. Delphine à Mademoiselle d'Albémare, ce 2 juillet. Thérèse est perdue, ma chère Louise, et je ne sais à quel parti m'arrêter pour adoucir sa cruelle situation. J'entrevoyais quelque espoir pour mon bonheur il y a 2 jours, à la fête de Madame de Vernon. Léonce et moi, nous nous étions presque expliqués. Mais depuis le malheur arrivé à Thérèse, je suis tellement émue que j'ai laissé passer 2 soirées sans oser aller chez Madame de Vernon. Léon aurait remarqué ma tristesse, et je n'aurais pu lui en avouer la cause. S'il est un devoir sacré pour moi, c'est celui de garder, inviolablement, le secret de mon ami. Et comment ne pas se laisser pénétrer par ce qu'on aime? Je ne sais donc rien de Léonce, et Madame d'Hervin occupe seule tous mes moments. Madame Dumarsais, cette cruelle ennemie de tous les sentiments qu'elle ne peut plus inspirer ni ressentir, a connu M. d'Hervin à Paris, il y a 15 ans, avant qu'il eût épousé Thérèse. Avant-hier, au bal, Madame Dumarsais, placée à côté de lui, n'a cessé de lui parler bas, pendant que Thérèse dansait avec M. de Sermelane. Je ne crois point que Mme Dumarsais ait été capable d'exciter positivement les soupçons de M. d'Hervin. Les caractères les plus méchants ne veulent pas s'avouer qu'ils le sont, et se réservent toujours quelques moyens d'excuse vis-à-vis des autres et d'eux-mêmes. Mais j'ai cru reconnaître, par quelques mots échappés à la fureur de M. d'Hervin, que Madame Dumarsais, en apprenant que M. de Cerbellane avait passé 6 mois dans son château avec sa femme, s'était moqué du rôle ridicule qu'il devait avoir joué en tiers avec ces deux jeunes gens. Et de tous les mots qu'elle pouvait choisir, le plus perfide était celui du ridicule. Depuis, M. Dervin la répétait sans cesse dans sa fureur, et quand elle s'apaisait, il lui suffisait de se le prononcer à lui-même pour qu'elle recommençât plus violente que jamais. Je passai devant M. Dervin quelques moments après sa conversation avec Mme du Marsay, et je fus frappé de son air sérieux. Comme je ne connais rien en lui de profond que son amour-propre, je ne doutais pas qu'il ne fût offensé de quelque manière. Thérèse me fit part des mêmes observations, et cependant, soit, comme elle me l'a dit depuis, qu'un sentiment funeste l'agita, soit que cette fête nouvelle pour elle l'étourdit et lui ôta le pouvoir de réfléchir, son occupation de M. de Cerbella n'était que trop remarquable pour des regards attentifs. M. Dervin affecta de s'éloigner d'elle, mais j'aperçus clairement qu'il ne la perdait pas de vue. J'en avertis M. de Cerbella, je comptais sur sa prudence. En effet, il évita constamment de parler à Thérèse. Si je n'avais pas quitté Mme Dervin alors, peut-être aurais-je calmé le trouble où la jetait l'apparente froideur de M. de Cerbella. Elle en savait la cause, et cependant, elle ne pouvait en supporter la vue. Entièrement occupée de Léonce le reste de la soirée, j'oubliais Mme Dervin. C'est à cette faute, hélas, qu'est peut-être due son infortune. Je parlais encore à Léonce lorsque j'appris subitement qu'on emportait Mme Dervin sans connaissance. Je courus après son mari qui la suivait. Je montai dans sa voiture presque malgré lui, et je pris dans mes bras la pauvre Thérèse, qui était tombée dans un évanouissement si profond qu'elle ne donnait plus un signe de vie. « Grand Dieu, dis-je à M. Dervin, qui l'a mise en cet état ?»«
Sa conscience, madame, me répondit-il, sa conscience. »
Et il me raconta alors ce qui s'était passé avec un tremblement de colère dans lequel il n'entrait pas un seul sentiment de pitié pour cette charmante figure mourant devant ses yeux. Placé derrière une porte, au moment où sa femme passait d'une chambre à l'autre, il avait entendu faire à M. de Cerbella des reproches dont l'expression supposait une liaison intime. Il s'était avancé alors, et, prenant la main de sa femme, il lui avait dit, à voix basse, mais avec fureur, « Regardez-le, ce perfide étranger. Regardez-le, car jamais vous ne le reverrez. » À ces mots, Thérèse était tombée comme morte à ses pieds. M. Dervin était fier de la douleur qu'il lui avait causée. Son orgueil ne se reposait que sur cette cruelle jouissance. Quand nous arrivâmes à la maison de Mme Dervin, sa fille, Isor, la voyant rapportée dans cet état, jetait des cris pitoyables, auxquels M. Dervin ne daignait pas faire la moindre attention. On posa Thérèse sur son lit, revêtue comme elle l'était encore, de guirlandes de fleurs et de toutes les parures du bal. Elle avait l'air d'avoir été frappée de la foudre au milieu d'une fête. Mes soins la rappelèrent à la vie, mais elle était dans un délire qui trahissait à chaque instant son secret. Je voulais que M. Dervin me laissât seul avec elle. Mais loin qu'il y consentît, il s'approcha de moi pour me dire que ma voiture était arrivée, et que dans ce moment, il désirait d'entretenir sa femme sans témoin. « Au nom de votre fille, lui dis-je, M. Dervin, ménagez Thérèse. N'oubliez pas 10 ans de bonheur, n'oubliez pas... »«
Je sais, madame, interrompit-il, ce que je me dois à moi-même. Croyez que j'aurai toujours présent à l'esprit ma dignité personnelle. »
Et n'aurez-vous pas, repris-je, n'aurez-vous pas présent à l'esprit le danger de Thérèse ?
« Ce qui est convenable doit être accompli, répondit-il, quoi qu'il en coûte. Elle a l'honneur de porter mon nom. Je verrai ce qu'exige à ce titre et son devoir, et le mien. » Je quittai cet homme odieux, cet homme incapable de rien voir dans la nature que lui seul, et dans lui-même que son orgueil. Je retournai encore une fois vers l'infortunée Thérèse, je l'embrassai en lui jurant l'amitié la plus tendre et lui recommandant la prudence et le courage. Elle ne me répondit à demi-voix que ces seuls mots, « Faites que je le revoie. » Je partis le cœur déchiré. En rentrant chez moi vers 2 heures du matin, je trouvai M. de Serbellane qui m'attendait. Combien je fus touchée de sa douleur. Ses caractères habituellement froids sortent quelquefois d'eux-mêmes et produisent alors une impression ineffaçable. Il se faisait une violence infinie pour contenir sa fureur contre M. Dervin. Cependant, il lui échappa une fois de dire qu'il ne me fasse pas craindre pour sa femme, qu'il ne la menace pas d'indigne traitement. Car alors, je trouverais qu'il vaut mieux se battre avec lui, le tuer et délivrer Thérèse. Et si jamais j'arrivais à trouver ce parti le plus raisonnable, ah, que je le prendrais avec joie. Je le calmai en lui disant que je reverrais le lendemain Thérèse et que je lui raconterais fidèlement dans quelle situation je la trouverais. Nous nous quittâmes après qu'il me promit de ne prendre aucun parti sans m'avoir revu. Aujourd'hui, je n'ai pu être reçue chez Thérèse qu'à 8 heures du soir. J'y ai été 10 fois inutilement. Son mari la tenait enfermée. Son état m'a plus effrayée encore que la veille. Ah, mon Dieu, quelle destinée! M. Dervin ne l'avait pas quittée un seul instant, ni la nuit, ni le jour. Il l'avait accablée des reproches les plus outrageants. Il avait obtenu d'elle tous les aveux qui l'accusaient, en la menaçant toujours, si elle le trompait, d'interroger lui-même M. de Serbellane. Enfin, il avait fini par lui déclarer qu'il exigeait que M. de Serbellane quittât la France dans 24 heures. « Je ne m'informe pas, lui dit-il, des moyens que vous prendrez pour l'obtenir de lui. Vous pouvez lui écrire une lettre que je ne verrai pas, mais si après-demain, à 10 heures du soir, il est encore à Paris, j'irai le trouver, et nous nous expliquerons ensemble. Aussi bien, je penche beaucoup pour ce dernier moyen, et il ne peut être évité que s'il me donne une satisfaction éclatante en s'éloignant au premier signe de ma volonté. » Thérèse avait tout promis, mais ce qui l'occupait peut-être le plus, c'était la parole que je lui avais donnée il y a 15 jours d'assurer ses derniers adieux. Son imagination était moins frappée de la crainte d'un duel entre son amant et son mari que de l'idée qu'elle ne reverrait plus M. de Serbellane. Elle s'est jetée à mes pieds pour me conjurer de détourner d'elle une telle douleur. Ces mots terribles que M. Dervin a prononcés au bal, ces mots « Vous ne le verrez plus » retentissent toujours dans son cœur. En les répétant, elle est dans un tel état qu'il semble qu'avec ses seules paroles, on pourrait lui donner la mort. Elle dit que, si ce sort jeté sur elle ne s'accomplit pas, si elle revoit encore une fois M. de Serbellane, elle sera sûre que leur séparation ne doit point être éternelle. Elle aura la force de supporter son départ, mais que si ce dernier adieu n'est pas accordé, elle ne peut répondre d'y survivre. J'ai voulu détourner son attention, mais elle me répétait toujours, « Le verrai-je? Lui dirai-je encore adieu ?» Et mon silence la plongeait dans un tel désespoir que j'ai fini par lui promettre que je consentirais à tout ce que voudrait M. de Serbellane. « Eh bien, dit-elle alors, « je suis tranquille, car je lui ai écrit des prières irrésistibles. Vous trouverez peut-être, ma chère Louise, vous qui êtes un ange de bonté, que je ne devais pas hésiter à satisfaire Thérèse, surtout après l'engagement que j'avais pris antérieurement avec elle. Faut-il vous avouer le sentiment qui me faisait craindre de consentir à ce qu'elle désirait? Si Léon s'apprend par quelque hasard que j'ai réuni chez moi une femme mariée avec son amant, malgré la défense expresse de son époux, m'approuvera-t-il? Léonce est-il donc devenu ma conscience? Et ne suis-je donc plus capable de juger par moi-même ce que la générosité et la pitié peuvent exiger de moi? En sortant de chez Thérèse, j'allais chez madame de Vernon. Léon s'en était parti. Il m'avait cherché chez moi et s'était plaint, à ce que m'a dit Mathilde fort naturellement, du temps que je passais chez monsieur Dervin. Monsieur de Fierville me fit alors quelques plaisanteries sur l'emploi de mes heures. Ces plaisanteries me firent tout à coup comprendre qu'il avait vu sortir monsieur de Cerbellane à 3 heures du matin de chez moi le jour du bal. J'en éprouvais une douleur insensée. Je ne voyais aucun moyen de me justifier de cette accusation. Je frémissais de l'idée que Léon aurait pu l'entendre. Monsieur de Cerbellane arriva dans ce moment. Il venait de chez moi, il me le dit. Monsieur de Fierville sourit encore. Ce sourire me parut celui de la malice infernale. Mais au lieu de m'exciter à me défendre, il me glaça d'effroi, et je reçus monsieur de Cerbellane avec une froideur inouïe. Il en fut tellement étonné qu'il ne pouvait y croire, et son regard semblait me dire « Mais où êtes-vous? Mais que vous est-il arrivé ?» Sa surprise me rendit à moi-même. « Non, Léonce, me répétais-je tout bas, vous pouvez tout sur moi, mais je ne vous sacrifierai pas la bonté, la généreuse bonté, le culte de toute ma vie. » Je me décidai alors à prendre monsieur de Cerbellane à part, et lui rendant compte en peu de mots de ce qui s'était passé, je lui dis qu'une lettre de Thérèse l'attendait chez lui, et il partit pour la lire. Après cet acte de courage et d'honnêteté, car c'était moi que je sacrifiais, je voulus tenter de ramener monsieur de Fierville. Je me demandais pourquoi je ne pourrais pas me servir de mon esprit pour écarter des soupçons injustes. Mais monsieur de Fierville était calme, et j'étais ému. Mais toutes mes paroles se ressentaient de mon trouble, tandis qu'il acérait de sang-froid toutes les siennes. J'essayais d'être gai pour montrer combien j'attachais peu de prix à ce qu'il croyait important. Mes plaisanteries étaient contraintes, et l'aisance la plus parfaite rendait les siennes piquantes. Je revins au sérieux, espérant parvenir de quelque manière à le convaincre. Mais il repoussait par l'ironie l'intérêt trop vif que je ne pouvais cacher. Jamais je n'ai mieux éprouvé qu'il est de certains hommes sur lesquels glissent, pour ainsi dire, les discours et les sentiments les plus propres à faire impression. Ils sont occupés à se défendre de la vérité par le persiflage. Et comme leur triomphe est de ne pas vous entendre, c'est en vain que vous vous efforcez d'être compris. Je souffris beaucoup, cependant, de mon embarrassante situation lorsque madame de Vernon vint me délivrer. Elle fit quelques plaisanteries à monsieur de Fierville, qui valait mieux que les siennes, et l'emmena dans l'embrasure de la fenêtre, en me disant tout bas qu'elle allait le détromper sur tout ce qui m'inquiétait, si je la laissais seule avec lui. Je ne puis vous dire, ma chère Louise, combien je fus touchée de cette action, de ce secours accordé dans une véritable détresse. Je serrai la main de Madame de Vernon, les larmes aux yeux, et je me promis de la voir demain pour ne plus conserver un secret qui me pèse. Vous saurez donc demain, ma Louise, ce qu'il doit arriver de moi. Lettre 30. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Ce 4 juillet. J'ai passé un jour très agité, ma chère Louise, quoique je n'ai pu parvenir encore à parler à Madame de Vernon. Il a eu des moments doux ce jour, mais il m'a laissé de cruelles inquiétudes. En m'éveillant, j'écrivis à Madame de Vernon pour lui demander de me recevoir seule à l'heure de son déjeuner. Et sans lui dire précisément le sujet dont je voulais lui parler, il me semble que je l'indiquai assez clairement. Elle fit attendre mon domestique 2 heures, et me le renvoya enfin avec un billet dans lequel elle s'excusait de ne pas pouvoir accepter mon offre, et finissait par ces mots remarquables. « Au reste, ma chère Delphine, je lis dans votre cœur aussi bien que vous-même. » Mais je ne crois pas que ce soit encore le moment de nous parler. » J'ai réfléchi longtemps sur cette phrase, et je ne la comprends pas bien encore. Pourquoi veut-elle éviter cet entretien? Elle m'a dit elle-même, il y a 2 jours, qu'elle n'avait point eu, jusqu'à présent, de conversation avec Léonce relativement au projet du mariage. Aurait-elle deviné mon sentiment pour lui? Serait-elle assez généreuse, assez sensible, pour vouloir rompre cet hymen à cause de moi, et sans m'en parler? Combien j'aurais à rougir d'une si noble conduite? Qu'aurais-je fait pour mériter un si grand sacrifice? Mais, si elle en avait l'idée, comment exposerait-elle Mathilde à voir tous les jours Léonce? Enfin, dans ce doute insupportable, je résolus d'aller chez elle et de la forcer à m'écouter. Qu'avais-je à lui dire, cependant? Que j'aimais Léonce et que je voulais m'opposer au bonheur de sa fille, traverser les projets que nous avions formés ensemble. Ah, ma Louise, vous donnez trop d'encouragement à ma faiblesse. Au moins, je ne me livrerai point à l'espérance avant que Madame de Vernon m'ait entendue et décidé de mon sort. Monsieur de Cerbellane arriva chez moi comme j'allais sortir. Le changement de son visage me fit de la peine. Je vis bien qu'il souffrait cruellement. « J'ai lu sa lettre, me dit-il. Elle m'a fait mal. J'avais espéré que ma vie ne serait funeste à personne. Et voilà que j'ai perdu la destinée de la plus sensible des femmes. Voyons enfin, me dit-il en reprenant de l'empire sur lui-même, voyons ce qu'il reste à faire. Quoiqu'il me soit très pénible d'avoir l'air de céder, en partant, à la volonté de M. Dervin, j'y consens puisque Thérèse le désire. Je ne crains pas que personne imagine que c'est ma vie que j'ai ménagée. Vous, madame, ajouta-t-il, que j'ai connue par tant de preuves d'une angélique bonté, il faut que vous m'en donniez une dernière. Il faut que vous receviez après-demain dans la soirée Thérèse et moi chez vous. Je partirai ce matin ostensiblement. Monsieur Dervin se croira sûr que je suis en route pour le Portugal. Quelques affaires l'appellent à Saint-Germain et pendant qu'il y va, Thérèse viendra chez vous en secret. Je sais que la demande que je vous fais sera refusée par une femme commune, accordée sans réflexion par une femme légère. Je l'obtiendrai de votre sensibilité. je n'ai peut-être pas toujours partagé l'impétuosité des sentiments de Thérèse. Mais aujourd'hui, cet adieu m'est aussi nécessaire qu'à elle. Ces derniers événements ont produit sur mon caractère une impression dont je ne le croyais pas susceptible. Je veux que Thérèse entende ce que j'ai à lui dire sur sa situation. » Monsieur de Servelane s'arrêta, étonné de mon silence. Ce qui s'était passé hier avec Monsieur de Fierville me donnait encore plus de répugnance pour une nouvelle démarche. La calomnie ou la médisance peuvent se perdre auprès de Léonce. Je n'osais pas cependant refuser Monsieur de Servelane. Quel motif lui donner? J'aurais rougi de prétester un scrupule de morale, quand ce n'était pas la véritable cause de mon incertitude. Horreur éternelle, à qui pourrait vouloir usurper un sentiment d'estime. Je ne sais si Monsieur de Servelane s'aperçut de mes combats, mais me prenant la main, il me dit avec ce calme qui donne toujours l'idée d'une raison supérieure. « Vous l'avez promise à Thérèse, j'en suis témoin, elle y a compté. Tromperez-vous ainsi sa confiance ? Serez-vous insensible à son désespoir ?»« Non, lui répondis-je, quoi qu'il puisse en arriver, je ne lui causerai pas une telle douleur. Employez cette entrevue à calmer son esprit, à la ramener au devoir que sa destinée lui impose. Et s'il en résulte pour moi quelque grand malheur, du moins, je n'aurais jamais été dur envers un autre. J'aurais droit à la pitié. » Généreux ami, s'écria Monsieur de Servelane, vous serez heureuse dans vos sentiments. Je les ai devinés, j'ose les approuver, et tous les vœux de mon âme sont pour votre félicité. Je mettrai tant de prudence et de secret dans cette entrevue que je vous promets d'en écarter tous les inconvénients. Je ferai servir ces dernières heures à fortifier la raison de Thérèse, et dans votre maison il ne sera prononcé que des paroles dignes de vous. La nuit suivante, je pars, je quitte peut-être pour jamais la femme qui m'a le plus aimée, et vous, madame, et vous, dont le caractère est si noble, si sensible et si vrai. » C'était la première fois que Monsieur de Servelane m'exprimait vivement son estime. J'en fus ému. Cet homme a l'art de toucher par ses moindres paroles. Le courage qu'il avait sut m'inspirer et me soutint quelques moments. Mais à peine fut-il parti que je fus saisi d'un profond sentiment de tristesse, en pensant à tous les hasards de l'engagement que je venais de prendre. Si j'avais pu consulter Léonce, ne m'aurait-il pas désapprouvé? Il ne voudrait pas, au moins, j'en suis sûre, que sa femme se permît une conduite aussi faible. Ah, pourquoi n'ai-je pas, dès à présent, la conduite qu'il exigerait de sa femme? Cependant, ma promesse n'était-elle pas donnée? Pouvais-je supporter d'être la cause volontaire de la douleur la plus déchirante? Non, mais que ce jour n'est-il passé? Je suivis mon projet d'aller chez Madame de Vernon, quoique je fusse bien peu capable de lui parler dans la distraction où me jetait le consentement que Monsieur de Servelane avait obtenu de moi. Je trouvai Léonce avec Madame de Vernon. Il venait prendre congé d'elle avant d'aller passer quelques jours à Mondeville. Il se plaignit de ne m'avoir pas vue, mais avec des mots si doux sur mon dévouement à l'amitié, que je dus espérer qu'il m'en aimait davantage. Il soutint la conversation avec un esprit très libre. Il me parut en l'observant que son parti était pris. Jusqu'alors, il avait eu l'air entraîné, mais non résolu. J'espérais beaucoup pour moi de son calme. S'il m'avait sacrifié, il aurait été impossible qu'il me regardât d'un air serein.
Madame de Vernon allait aux Tuileries faire sa cour à la reine. Elle me pria de l'accompagner. Léonce dit qu'il irait aussi. Je rentrai chez moi pour m'habiller, et un quart d'heure après, Léonce et Madame de Vernon vinrent me chercher. Nous attendions la reine dans le salon qui précède sa chambre, avec 40 femmes les plus remarquables de Paris. Madame de R. arriva. C'est une personne très inconséquente, et qui s'est perdue de réputation par des torts réels et par une inconcevable légèreté. Je l'ai vue 3 ou 4 fois chez sa tante, Madame d'Artenat. J'ai toujours évité avec soin toute liaison avec elle. Mais j'ai eu l'occasion de remarquer dans ses discours un fond de douceur et de bonté. Je ne sais comment elle eut l'imprudence de paraître sans sa tante aux Tuileries, elle qui doit si bien savoir qu'aucune femme ne veut lui parler en public. Au moment où elle entra dans le salon, mesdames de Saint-Albe et de Thésin, qui se plaisent assez dans les exécutions sévères, et satisfont volontiers, sous prétexte de la vertu, leur arrogance naturelle, mesdames de Saint-Albe et de Thésin quittèrent la place où elles étaient assises, du même côté que Madame de R. À l'instant, toutes les autres femmes se levèrent, par bonheur ou par timidité, et vinrent rejoindre à l'autre extrémité de la chambre Madame de Vernon, Madame du Marsay et moi. Tous les hommes, bientôt après, suivirent cet exemple, car ils veulent, en séduisant les femmes, conserver le droit de les en punir. Madame de R. restait seule l'objet de tous les regards. Voyant le cercle se reculer à chaque pas qu'elle faisait pour s'en approcher, et ne pouvant plus cacher sa confusion. Le moment allait arriver où la reine nous ferait entrer ou sortirait pour nous recevoir. Je prévis que la scène deviendrait alors encore plus cruelle. Les yeux de Madame de R. se remplissaient de larmes. Elle nous regardait toutes comme pour implorer le secours d'une de nous. Je ne pouvais pas résister à ce malheur. La crainte de déplaire à Léonce, cette crainte toujours présente, me retenait encore. Mais un dernier regard jeté sur Madame de R. m'attendrit tellement que par un mouvement complètement involontaire, je traversai la salle et j'allai m'asseoir à côté d'elle. « Oui, me disais-je alors, puisqu'encore une fois les convenances de la société sont en opposition avec la véritable volonté de l'âme, qu'encore une fois elle soit sacrifiée. » Madame de R. me reçut comme si je lui avais rendu la vie. En effet, c'est la vie que le soulagement de ses douleurs que la société peut imposer quand elle exerce sans pitié toute sa puissance. À peine eus-je parlé à Madame de R. que je ne pus m'empêcher de regarder Léonce. Je vis de l'embarras sur sa physionomie, mais point de mécontentement. Il me sembla que ses yeux parcouraient l'assemblée avec inquiétude pour juger de l'impression que je produisais, mais que la sienne était douce. Madame de Vernon ne cessa point de causer avec Monsieur de Fierville et n'eut pas l'air d'apercevoir ce qui se passait. Je soutins assez bien jusqu'à la fin ce qu'il pouvait y avoir d'un peu gênant dans le rôle que je m'étais imposé. En sortant de l'appartement de la reine, Madame de R. me dit, avec une émotion qui me récompensa 1000 fois de mon sacrifice, « Généreuse Delphine, vous m'avez donné la seule leçon qui pût faire impression sur moi. Vous m'avez fait aimer la vertu, son courage et son ascendant. Vous apprendrez dans quelques années qu'à compter de ce jour, je ne serai plus la même. Il me faudra longtemps avant de me croire digne de vous voir, mais c'est le but que je me proposerai,
c'est l'espoir qui me soutiendra. » Je lui pris la main à ces derniers mots et je la serrai affectueusement. Un sourire amer de Madame du Marsay, un regard de Monsieur de Fierville m'annoncèrent leur désapprobation. Ils parlaient tous les deux à Léonce, et je crus voir qu'il était péniblement affecté de ce qu'il entendait. Je cherchais des yeux Madame de Vernon. Elle était encore chez la reine. Pendant ce moment d'incertitude, Léonce m'aborda et me demanda avec assez de sérieux la permission de me voir seule chez moi dès qu'il aurait reconduit Madame de Vernon. J'y consentis par un signe de tête. J'étais trop émue pour parler. Je retournai chez moi. J'essayai de lire en attendant l'arrivée de Léonce. Mais lorsque 3 heures furent sonnées, je me persuadai que Madame de Vernon l'avait retenue, qu'il s'était expliqué avec elle, qu'elle avait intéressé sa délicatesse à tenir les engagements de sa mère, et qu'il allait m'écrire pour s'excuser de venir me voir. Un domestique entra pendant que je faisais ces réflexions. Il portait un billet à la main, et je ne doutais pas que ce billet ne fût l'excuse de Léonce. Je le pris sans rien voir, un nuage couvrait mes yeux. Mais, quand j'aperçus la signature de Thérèse, j'éprouvai une joie bien vive. Elle me demandait de venir le soir chez elle. Je répondis que j'irais avec un empressement extrême. Je crois que j'étais reconnaissante envers Thérèse de ce que c'était elle qui m'avait écrit. Je me rassis avec plus de calme. Mais peu de temps après, mon inquiétude recommença. J'avais appris depuis 1 heure à distinguer parfaitement tous les bruits de voiture. Je reconnaissais à l'instant celles qui venaient du côté de la maison de Madame de Vernon. Quand elles approchaient, je retenais ma respiration pour mieux entendre, et quand elles avaient passé ma porte, je tombais dans le plus pénible abattement. Enfin, une s'arrête. On frappe, on ouvre. Et j'aperçois le carrosse bleu de Léonce qui m'était si bien connu. Je fus bien honteuse alors de l'état dans lequel j'avais été. Il me semblait que Léonce pouvait le deviner, et je me hâtais de reprendre un livre et de me préparer à recevoir comme une visite, avec les formes accoutumées de la société, celui que j'attendais avec un battement de cœur qui soulevait ma robe sur mon sein. Léonce enfin parut. L'air en devint plus léger et plus pur. Il commença par me dire que Madame de Vernon l'avait retenu avec une insistance singulière, sans lui parler d'aucun sujet intéressant, mais le rappelant sans cesse pour le charger des commissions les plus indifférentes. Elle doit, lui dis-je en faisant effort sur moi-même, cherchez tous les moyens de vous captiver. Vous ne pouvez en être surpris. Ce n'est pas elle, reprit Léonce, avec une expression assez triste, qui peut influer sur mon sort. Vous seul exercez cet empire. Je ne sais pas si vous vous en servirez pour mon bonheur. Ce doute m'étonna. Je gardai le silence. Il continua. Si j'avais eu la gloire de vous intéresser, ne penseriez-vous pas au prétexte que vous donnez à la méchanceté? Oublieriez-vous le caractère de ma mère et les obstacles? Il s'arrêta et appuya sa tête sur sa main. Que me reprochez-vous, Léonce? Lui dis-je. Je veux l'entendre avant de me justifier. Votre liaison intime avec Madame de R. Madame d'Albemar devait-elle choisir une telle amie? Je la voyais pour la 3e fois, répondis-je, depuis que je suis à Paris. Je n'ai jamais été chez elle, elle n'est jamais venue chez moi. Quoi? S'écria Léonce. Et Madame du Marsay a osé me dire. Vous l'avez écouté?
C'est vous qui êtes bien plus coupable.
Ce n'est pas tout encore, ajoutai-je. Ne m'avez-vous pas désapprouvé d'avoir été me placer à côté d'elle?
Non, répondit Léonce. Je souffrais, mais je ne vous blâmais pas.
Vous souffriez, repris-je avec assez de chaleur, quand je me livrais à un sentiment généreux?
Ah, Léonce, c'était du malheur de cet infortuné qu'il fallait s'affliger, et non de l'heureuse occasion qui me permettait de la secourir.
Sans doute Madame de R a dégradé sa vie.
Mais pouvons-nous savoir toutes les circonstances qui l'ont perdue? A-t-elle eu pour époux un protecteur ou un homme indigne d'être aimé? Ses parents ont-ils soigné son éducation? Le premier objet de son choix a-t-il ménagé sa destinée? N'a-t-il pas flétri dans son cœur toute espérance d'amour, tout sentiment de délicatesse?
Ah, de combien de manières le sort des femmes dépend des hommes!
D'ailleurs, je ne me vanterai point d'avoir pensé ce matin à la conduite de Madame de R, ni à l'indulgence qu'elle peut mériter. J'ai été entraînée vers elle par un mouvement de pitié tout à fait irréfléchi. Je n'étais point son juge, et il fallait être plus que son juge pour se refuser à la soulager d'un grand supplice, l'humiliation publique. Ces femmes même qui l'ont outragée. Pensez-vous que si elles l'eussent rencontrée seule à la campagne, elles se fussent éloignées d'elle?
Non,
elles lui auraient parlé. Leur indignation vertueuse, se trouvant sans témoin, ne se serait point réveillée.
Que de petitesse vaniteuse et de cruauté froide dans cette ostentation de vertu, dans ce sacrifice d'une victime humaine, non à la morale, mais à l'orgueil.
Écoutez-moi, Léonce, lui dis-je avec enthousiasme. Je vous aime, vous le savez, et je ne chercherai point à vous le cacher, quand même vous l'ignoreriez encore. Loin de moi toutes les ruses du cœur, même les plus innocentes. Mais je l'espère, je ne sacrifierai pas à cette affection toute puissante les qualités que je dois aux chers amis qui ont élevé mon enfance. Je braverai le plus grand des dangers pour moi, la crainte de vous déplaire. Oui, je le braverai quand il s'agira de porter quelque consolation à un être malheureux. Longtemps avant d'avoir fini de parler, j'avais vu sur le visage de Léonce que j'avais triomphé de toutes ses dispositions sévères. Mais il se plaisait à m'entendre, et je continuais encouragé par ses regards.
Delphine, me dit-il en me prenant la main, céleste Delphine, il n'est plus temps de vous résister. Qu'importe si nos caractères et nos opinions s'accordent en tout, il n'y a pas dans l'univers une autre femme de la même nature que vous. Aucune n'a dans les traits cette empreinte divine que le ciel y a gravée pour qu'on ne puisse jamais vous comparer à personne. Cette âme, cette voix, ce regard se sont emparés de mon être. Je ne sais quel sera mon sort avec vous, mais sans vous, il n'y a plus sur la terre, pour moi, que des couleurs effacées, des images confuses, des ombres errantes. Et rien n'existe, rien n'est animé quand vous n'êtes pas là.
Soyez donc, s'écria-t-il en se jetant à mes pieds, soyez donc la compagne de ma destinée, l'ange qui marchera devant moi pendant les années que je dois encore parcourir. Soignez mon bonheur que je vous livre avec ma vie, ménagez mes défauts. Ils naissent comme mon amour d'un caractère passionné. Et demandez au ciel, pour moi, le jour de notre union, que je meure jeune, aimée de vous, sans avoir jamais éprouvé le moindre refroidissement dans cette affection touchante que votre cœur m'a généreusement accordée.
Ah, Louise, quel sentiment j'éprouvais! Je serrais ses mains dans les miennes, je pleurais. Je craignais d'interrompre par un seul mot ses paroles enivrantes. Léonce me dit qu'il allait écrire à sa mère pour lui déclarer formellement son intention. et il sollicita de moi la promesse de m'unir à lui, quelle que fût la réponse d'Espagne, au moment où elle serait arrivée. Je consentais avec transport au bonheur de ma vie, quand tout à coup je réfléchis que cette demande ne pouvait s'accorder avec la résolution que j'avais formée de confier mon secret à Madame de Vernon avant d'avoir pris aucun engagement. La délicatesse me faisait une loi de ne donner aucune réponse décisive sans lui avoir parlé. Je ne voulus pas dire à Léonce ma résolution à cet égard, dans la crainte de l'irriter. Je lui répondis donc que je lui demandais de n'exiger de moi aucune promesse avant son retour. Il recula d'étonnement à ces mots, et sa figure devint très sombre. J'allais le rassurer lorsque, tout à coup, ma porte s'ouvrit, et je vis entrer Madame de Vernon, sa fille et Monsieur de Fierville. Je fus extrêmement troublé de leur présence, et je regrettai surtout de n'avoir pu m'expliquer avec Léonce sur le refus qui l'avait blessé. Madame de Vernon ne m'observa pas et s'assit fort simplement en m'annonçant qu'elle venait me chercher pour dîner chez elle. Mathilde eut un moment d'étonnement lorsqu'elle vit Léonce chez moi, mais cet étonnement se passa sans exciter en elle aucun soupçon. La lenteur de ses idées et leur fixité la préservent de la jalousie. « À propos, me dit Madame de Vernon, est-il vrai que M. de Serbellane part après-demain pour le Portugal ?» Je rougis à ce mot extrêmement, dans la crainte qu'il ne compromît Thérèse, et je me hâtai de dire qu'il était parti ce matin même. Léonce me regarda avec une attention très vive, puis il tomba dans la rêverie. Je sentis de nouveau le malheur du secret auquel j'étais condamnée, et je tressaillis en moi-même comme si mon bonheur eût couru quelque grand hasard. Madame de Vernon me proposa de partir. Elle insista, mais faiblement, pour que Léon se vînt chez elle. Monsieur Barton l'attendait, il refusa. Comme je montais en voiture, il me dit à voix basse, mais avec un ton très solennel, « N'oubliez pas qu'avec un caractère tel que le mien, un tort du cœur, une dissimulation, détruirait sans retour et mon bonheur et ma confiance. » Je le regardais pour me plaindre, ne pouvant lui parler, entouré comme je l'étais. Il m'entendit, me serra la main et s'éloigna. Mais depuis, une oppression douloureuse ne m'a point quittée. Il est enfin convenu que demain au soir, Madame de Vernon me recevra seule. Avant cette heure, Thérèse et son amant se seront rencontrés chez moi. C'est trop pour demain. J'ai vu ce soir Thérèse. Elle savait ma promesse par un mot de M. de Serbellane. Je n'aurais pu lui persuader moi-même, quand je l'aurais voulu, que j'étais capable de me rétracter. Son mari croit M. de Serbellane en route. Il va demain à Saint-Germain. Tout est arrangé d'une manière irrévocable. Moi, je suis liée de 1000 nœuds. Mais je l'espère au moins, c'est le dernier secret qui existera jamais entre Léonce et moi. Vous, ma sœur, à qui j'ai tout dit, songez à moi. Mon sort sera bientôt décidé.